fait 6 heures à Paris, minuit à Ottawa. Un nouveau journal consacré à l'actualité internationale présenté par vous, Jeanne Bartoli, bonjour.
Et bonjour Grégoire et bonjour à tous. Dans ce journal, la désillusion des conservateurs au Canada. Après 10 ans de pouvoir de Justin Trudeau, le parti ne reviendra pas aux affaires. Les projections des médias locaux donnent les libéraux emmenés par Marc Carney en tête. Pas de raz-de-marée néanmoins. On ne sait pas si le parti disposera d'une majorité au Parlement. Tous les détails dans ce journal. La situation en passe de revenir à la normale en Espagne et au Portugal, où les lumières se rallument ce matin après une journée de chaos et l'effondrement soudain du réseau électrique. Aucune hypothèse n'est encore privilégiée aujourd'hui concernant les raisons de cette coupure. À suivre aussi le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères à Kinshasa. Maxime Prévot a rencontré hier Judith Suminois et Félix Tshisekedi. Et puis en France, Bruno Retailleau, face à une pluie de critiques, le ministre de l'Intérieur mis en cause pour sa réaction trop tardive après l'assassinat d'un jeune Malien poignardé à mort devant une mosquée. Au Canada, le parti libéral de Marc Carney remporte donc les législatives selon les projections des médias locaux ces dernières heures. Les résultats du vote, toujours préliminaires, ne permettent pas néanmoins de déterminer si les libéraux disposeront d'une majorité au Parlement. Il y a quelques mois encore, la voie semblait pourtant toute tracée pour permettre aux conservateurs emmenés par Pierre Poilievre de revenir aux affaires après 10 ans de pouvoir de Justin Trudeau. Mais les menaces d'annexion du Canada par Donald Trump ont pesé sur cette campagne. Écoutez la déception de cette électrice conservatrice, Christina. Elle était il y a quelques heures au micro de Nafia Liber.
Je suis triste. J'ai l'impression que le Canada dans lequel j'ai grandi n'existe plus. J'ai l'impression que cet homme ne comprend pas le Canada. Il n'y vit plus depuis 30-35 ans. Je ne veux pas connaître le même sort que l'Europe et l'Allemagne, où des gens et des journalistes sont arrêtés pour avoir dit la vérité. Je ne veux pas vivre dans ce genre de monde. Je suis dévastée et j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants. Oui, j'ai des enfants de 27 et 34 ans qui n'ont pas les moyens de se loger. Ils vivent avec moi parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre seuls. Ils ont de bons emplois et je ne vois pas comment la situation pourrait s'améliorer.
Christina, électrice conservatrice, au micro de notre correspondante Nafia Liber. Hier, Donald Trump avait réitéré sa volonté d'annexer le Canada. Le jour donc des élections, dans la foulée, le candidat conservateur Pierre Poilievre avait demandé à Donald Trump de ne pas se mêler des élections au Canada. Donald Trump qui se rend aujourd'hui sur le lieu de l'un de ses derniers rassemblements de campagne à Warren, dans le Michigan, un État qui avait fait basculer de son côté l'élection le 5 novembre dernier, déplacement à la veille des 100 jours de son nouveau mandat à la Maison-Blanche. Et alors qu'un sondage publié par Washington Post, ABC News, Ipsos affirme que 55% des Américains désapprouvent la manière dont il exerce la fonction présidentielle, un score nettement plus bas que celui de Joe Biden au même moment de sa présidence. Des lumières qui se rallument dans les appartements, sur les ronds-points, des ascenseurs qui rouvrent leurs portes, des trains qui redémarrent. L'électricité rétablie ce matin à près de 90% en Espagne après la coupure géante qui a paralysé le pays depuis la mi-journée. Hier, la situation en passe de revenir à la normale également au Portugal après une journée chaotique, notamment pour les hôteliers portugais. Écoutez le témoignage de Marianne Bayo. Elle dirige un hôtel dans la ville de Porto.
Plus aucun système d'information, plus de possibilités ni de recevoir des appels, ni d'accéder au PMS, donc au système de gestion des réservations, pas d'infos possibles à part avec donc des radios. Donc la plupart des Portugais sont allés acheter des radios et des lampes dans les magasins en fait qui restaient ouverts parce que la plupart des supermarchés ont rapidement fermé. Et puis restaient en fait les bazars chinois où on pouvait aller acheter des lampes. Alors il fallait payer en cash parce qu'aucun système de paiement ne fonctionnait, mais en même temps il y a aucun distributeur qui fonctionne non plus. Donc je crois que pour nos guests ça sera un transfert en bonne confiance et que les paiements qu'on va pas réussir à recouvrir, on va dire à nos guests de nous faire un transfert parce qu'en fait il y a aucune solution.
Marianne Bayot, et pour le moment toujours pas d'explication concernant les raisons de cette coupure massive. Aucune hypothèse n'est écartée, a répété hier le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. De son côté, le gestionnaire du réseau portugais a évoqué un phénomène atmosphérique rare comme cause potentielle de la panne. Une petite partie du sud-ouest de la France a également été brièvement touchée, car en Europe, le réseau électrique est interconnecté, Alexis Bédu.
De la péninsule ibérique jusqu'aux pays baltes, toutes les centrales électriques doivent tourner à la même vitesse pour produire une fréquence uniforme dans tout le réseau. Cette fréquence de 50 Hz est la pierre angulaire de ce fonctionnement très fin. Si la production dépasse la consommation, la fréquence augmente. Si la consommation dépasse la production, la fréquence baisse, et un déséquilibre trop important peut entraîner des coupures automatiques dans les centrales. C'est ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal ce lundi. Sylvain Cognier-Dauphin est analyste électricité chez SNP.
Et que cette contrainte des 50 Hz, c'est vraiment dimensionnante dans tous les processus. En gros, c'est un peu comme si vous étiez un peu sur un fil de crête. Un peu trop de demande, vous tombez d'un côté, un peu trop de consommation, vous tombez de l'autre, et c'est pas un fil de crête où c'est juste plat à côté, c'est vraiment le côté vous tombez, il y a celui derrière qui tombe, et il y a une ligne de cordée, et vous faites tomber ce qu'il y a derrière avec vous, en fait.
Ce blackout n'est pas une première en Europe. En novembre 2006, un incident en Allemagne a abouti en quelques secondes à ce que 15 millions d'Européens soient privés de courant. Hors du réseau européen interconnecté, l'Angleterre a également connu une importante coupure. C'était en août 2019. Un orage sur un parc éolien en mer avait fait disjoncter le réseau, incapable de compenser immédiatement cette chute de la production.
Et les précisions d'Alexis Bédu. L'actualité de ce mardi, c'est aussi l'Ukraine et Volodymyr Zelensky qui dénonce une tentative de manipulation après l'annonce de Vladimir Poutine d'un cessez-le-feu de 3 jours entre le 8 et le 10 mai prochain à l'occasion des célébrations de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Hier, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a déclaré à son homologue russe, Sergueï Lavrov, qu'il était temps de mettre fin à une guerre qualifiée d'insensée en Ukraine. L'administration Trump, qui peine toujours à obtenir un accord de paix, alors pourtant que Donald Trump avait promis la paix en 24 heures pendant sa campagne. Le Monde assiste sur ses écrans à un génocide en direct à Gaza. Les mots extrêmement forts de la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, en préface du rapport annuel de l'Organisation sur les droits humains dans le monde, publié aujourd'hui, alors que cette nuit, la défense civile palestinienne a encore fait état de 4 morts dans une frappe israélienne sur des tentes de déplacés dans le sud de l'enclave. 6 heures passées de 7 minutes à l'écoute des RFI, direction à présent la République démocratique du Congo, avec la dernière étape de la tournée diplomatique de Maxime Prévost dans la région des Grands Lacs. Le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères a bouclé hier soir sa mission à Kinshasa avec 2 rencontres majeures. La première ministre Judith Suminois, puis le président Félix Tshisekedi. Au cœur des rencontres et des discussions, la politique, l'économie, mais surtout la crise entre la RDC et le Rwanda. Récit Pascal Moulégoua.
À propos de la guerre dans l'Est, Maxime Prévost avait déjà salué les initiatives du Qatar et des États-Unis qui ont permis d'arracher un accord de principe entre Kinshasa et les rebelles du M23 d'un côté et Kinshasa et Kigali de l'autre. Le ministre belge a renouvelé son appel à la prudence.
Si nous sommes positifs dans l'accueil de ces initiatives, nous souhaitons surtout pouvoir mesurer les résultats concrets qui pourraient subvenir dans les jours ou semaines à venir, histoire de garantir que si un chemin a été tracé, il continuera d'être emprunté, qu'il n'y aura pas trop de nid de poule sur celui-ci et que la destination finale sera bien atteinte.
Bruxelles, affirme Maxime Prévost, ne veut pas vampiriser les ressources congolaises, alors que d'autres acteurs internationaux ont, selon les ministres, une approche plus transactionnelle de leur diplomatie. Autre message adressé au président Tshisekedi n'est pas négliger les initiatives internes des résolutions de crise.
Nous sommes aussi conscients qu'il est important que des signaux soient donnés et qu'un dialogue national soit nourri, qui doit être aussi un adjuvant de la résolution des conflits et de la pacification. J'ai donc plaidé pour qu'il puisse y avoir une attention réservée, une écoute à l'initiative des évêques en maximalisant les différentes forces politiques en présence autour de la table.
À Doha, justement, une délégation composée d'évêques catholiques et des pasteurs protestants a été reçue ce lundi par le chef de la diplomatie qatarienne. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
La compétence universelle de la justice française au cœur d'un procès d'un ex-rebelle salafiste syrien, Majdi Nema, ancien membre de Jaïch al-Islam, âgé de 36 ans. Il est jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris pour complicité de crimes de guerre entre 2013 et 2016 en Syrie. Accusation que conteste sa défense, qui estime illégitime la tenue de ce procès en France. Marc Bailly, l'un des avocats des parties civiles, explique pourquoi, justement, ce procès se tient à Paris.
La compétence universelle, c'est une compétence qui est complémentaire des autres justices. C'est quand on n'a rien, se dire qu'on se bat contre l'impunité. Et notamment que la France ne soit pas la terre d'accueil d'un certain nombre de criminels de guerre en tout genre. C'est ça l'idée. Ensuite, s'agissant de la Syrie plus précisément, d'abord tout le monde se réjouit de la chute de Bachar el-Assad. En revanche, il y a des autorités de transition et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des choses positives sur l'ouverture, mais il y a des choses très inquiétantes du côté de la justice. Quand on voit aujourd'hui l'actuel ministre de la justice des autorités de transition, il y a de quoi s'inquiéter. Malheureusement, la difficulté est que même aujourd'hui, encore aujourd'hui, il est absolument impossible de tenir un procès qui respecterait le procès équitable. Il n'y a aujourd'hui aucune autorité judiciaire réellement indépendante, pas de réelle séparation de pouvoir. Il n'y a pas d'autorité diplomatique qui permettrait des échanges d'informations entre la France et la Syrie. En somme, il y a une impossibilité pratique de mener ce procès au bout en Syrie. Et c'est pour cette raison qu'il a lieu en France. Et du reste, les Syriens, tous ceux avec lesquels on parle, évidemment préféraient que le procès ait lieu en Syrie, mais sont tout à fait lucides et se réjouissent au moins qu'il y ait un procès, qu'au moins une fois on vienne poursuivre ce groupe Jaïch al-Islam et l'un de ses porte-paroles.
Marc Bailly, avocat des parties civiles, au micro de Laura Martel. Il nie avoir agi par haine de l'islam. Le meurtrier d'Aboubacar Cissé, jeune malien, poignardé vendredi devant une mosquée de la Grande Combe dans le sud de la France, a été entendu par les policiers italiens où il avait fui avant de se rendre. Alors qu'un juge d'instruction du pôle criminel de Nîmes a été saisi et une information judiciaire ouverte pour meurtre avec préméditation en raison de la race ou de la religion. Côté politique, l'affaire suscite des remous. Le ministre de l'Intérieur, notamment, fait face à une pluie de critiques. La gauche, et pas seulement, accuse Bruno Retailleau d'une réaction trop tardive et d'un deux poids, deux mesures. Victorien Villaume.
Il a fallu deux jours à Bruno Retailleau pour se rendre à la mosquée où s'est déroulée l'attaque. Bien trop long, dit la gauche, qui plus généralement estime que le ministre alimente un racisme anti-musulman en France. L'insoumis David Guiraud.
Quand il fait des meetings, il crie à bas le voile. Bruno Retailleau produit un discours qui accable les Français musulmans. Ça, c'est un fait. Si ça avait été un Français catholique ou un Français juif, il se serait déplacé dans l'heure.
Les crimes antisémites et les crimes anti-musulmans sont traités de la même manière, balaye la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima.
Bruno Retailleau est très déterminé à lutter contre toutes les formes de violence contre quelque communauté que ce soit, y compris, bien entendu, sur nos compatriotes musulmans. Tout ça mérite un peu plus de hauteur.
Pierre-Alexandre Anglade dénonce lui aussi une instrumentalisation de la part de la gauche, même si le député du camp présidentiel reconnaît que Bruno Retailleau a commis une erreur.
Oui, le ministre aurait dû se déplacer plus tôt. Mais c'est pas ça le fond du débat. La seule chose qui doit nous intéresser, c'est de préserver l'unité dans un pays qui est de plus en plus divisé sur les questions religieuses et identitaires et qui menace la cohésion nationale.
J'ai été l'un des premiers à réagir, mais je n'ai pas voulu me précipiter sur place car j'attendais des éléments de l'enquête, se défend Bruno Retailleau.
Victorien Villaume. En fin du sport, vous suivrez la rencontre ce soir sur RFI en intégralité et en direct, la première demi-finale aller de la Ligue des Champion. Le PSG se déplace à Arsenal. Coup d'envoi du match 21h, heure de Paris. 19h, temps universel.
RFI, toute l'actualité.
Jeanne Bartoli.
6h13 à l'écoute de la Radio du Monde. Bientôt 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce sera demain. Les sondages de popularité sont en forte baisse pour le président américain. On s'intéresse ce matin à son vice-président J.D. Vance. Reportage dans la région dont est originaire sa famille. Nous serons également au Groenland, menacé régulièrement d'annexion par Donald Trump, avec notre envoyé spécial Justine Fontaine. L'invité culture également à suivre. Il est l'héritier des peintres quinois des années 70, Jean-Pierre Michel. Expose en ce moment à Paris. Il sera au micro d'Olivier Roger. Et puis, comme tous les jours, le Conseil Santé, ce sera avec Caroline Paris. Et ce sera donc demain avec une programmation spéciale sur RFI. Les 100 premiers jours du retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Le président américain, dont la popularité est en chute libre, si l'on en croit un récent sondage publié par Washington Post, ABC News, Ipsos, 55% des Américains désapprouvent la manière dont il exerce la fonction présidentielle. Et parmi les plus proches conseillers de Donald Trump, J.D. Vance, son vice-président, l'un des plus influents sur les dossiers internationaux, une personnalité populaire chez les partisans de Donald Trump et qui incarne une Amérique dite oubliée et son électorat populaire et blanc. Notre correspondant Edouard Maille s'est rendu dans les montagnes des Appalaches, région pauvre et reculée de la Rust Belt, région dont est originaire J.D. Vance. Reportage.
Dans ces vallées qui s'enchaînent, recouvertes de végétation, Jessica Ellis rentre chez elle dans sa maison au bord de cette route sinueuse, à quelques kilomètres de l'ancienne demeure des grands-parents de J.D. Vance et de leur cimetière familial. Jessica, électrice de Donald Trump, explique que tout le monde ici se réjouit de l'arrivée de J.D. Vance à la vice-présidence.
Il comprend la situation ici. Il va pouvoir aider cette région d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer.
J.D. Vance a raconté son histoire familiale entre ces montagnes du Kentucky et les plaines désindustrialisées de l'Ohio, à quelques centaines de kilomètres au nord. Dans son livre « Hillbilly Elegy », il y revendique fièrement ce terme de « hillbilly » qui peut se traduire par « pecno », terme péjoratif employé pour désigner les gens de cette région plus isolés.
Il y a un cliché qui dit qu'on serait pieds nus et stupides, mais comme vous pouvez le voir, je porte des chaussures. Il y a aussi l'idée qu'on ne compte pas, mais J.D. a prouvé qu'on n'est pas stupide.
28% des habitants de ce comté vivent sous le seuil de pauvreté, alors que la moyenne nationale est de 12%. Dans le centre du village, la vitrine d'une épicerie affiche un drapeau « Trump, sauver l'Amérique à nouveau ». Le propriétaire, Kenneth Patrick, en attend également beaucoup du vice-président.
Il va peut-être nous aider à ramener des usines ici dans le comté de Breathitt. Je l'espère. On a besoin de croire. On est en train de devenir un village fantôme et c'est effrayant.
Ici, J.D. Vance, c'est l'espoir d'être mieux représenté et écouté à Washington, comme l'explique Stephen Bowling, le directeur de la bibliothèque publique et historien du comté.
Pendant des générations, on a permis aux autres d'écrire notre histoire. Les gens venaient dans les montagnes pour des pratiques économiques extractivistes. Ils ont pris le charbon, puis sont partis. Ils ont pris le bois, puis sont partis. Comme pour le sel, tout ça a retiré le pouvoir, la stabilité économique et la richesse. Donc maintenant, la possibilité d'avoir une voix à Washington est importante pour les habitants.
Avant son investiture, J.D. Vance est revenu ici, confirmant pour les habitants le dicton local. Le garçon peut quitter la montagne, mais la montagne ne peut pas quitter le garçon. Edouard Maille Jackson dans le Kentucky, RFI.
Et c'est un reportage que vous retrouvez sur RFI.fr. On va continuer de parler de J.D. Vance, influent, on l'a dit, sur les questions internationales. Il y a un mois, il s'était invité au Groenland, visite impromptue, mal vue aussi par beaucoup d'habitants de ce territoire autonome du Danemark, d'autant plus que Donald Trump a dit et répété qu'il voulait s'emparer du Groenland. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour.
Envoyé spécial à Nuuk, la capitale du Groenland, pour l'appel correspondant. Alors Justine, premier argument du président américain pour s'emparer du territoire, la sécurité. Deuxième argument, les minerais. Est-ce que le Groenland a de grandes richesses minières ?
Pour répondre à cette question, on s'est penché sur une carte à l'Institut des ressources naturelles. Leurs bureaux sont sur les hauteurs de Nuuk.
Il y a du cuivre dans le sud et ici de l'or et puis des terres rares.
Rare earth metals.
Thomas Warming, qui nous montre cette carte, est géologue. Le Groenland a aussi du graphite ou encore du lithium.
Certains des minerais présents ici sont indispensables pour la transition écologique.
Ils le sont aussi pour l'électronique et la défense, mais à l'échelle mondiale, la Chine contrôle une bonne partie de ces matières premières.
D'où l'intérêt de Washington qui cherche à moins dépendre de Pékin. Justine, qu'en pensent les Groenlandais ?
Leur île n'est pas à vendre ni à conquérir, ils sont presque unanimes là-dessus. Le nouveau Premier ministre l'a répété aussi avant-hier, mais certains disent qu'ils sont ouverts au business, comme Aka Kleist, 19 ans, qu'on a rencontré dans les allées du centre commercial de Nuuk.
On peut travailler ensemble, avec Trump et avec le Danemark.
Pour certains, les déclarations du président américain peuvent aider à attirer des investissements et à gagner en autonomie vis-à-vis de Copenhague en vue d'une indépendance à l'avenir.
Mais il y a beaucoup d'obstacles, Justine, à surmonter pour exploiter ces minerais.
Oui, voilà. D'abord, il faut vérifier que le gisement est suffisamment important. Et puis, il faut que ce soit rentable. Sauf que le Groenland manque d'infrastructures, explique encore Thomas Warming.
Ce n'est pas le paradis des minerais dont certains rêvent. Vous pouvez être amené à construire un port, une route, des logements. Et si c'est une grande mine, peut-être même une piste d'atterrissage.
Des investissements gigantesques. Enfin, il y a aussi des réticences à cause de la pollution minière, ajoute Javier Arnaud, économiste à l'université de Nuuk.
Le Groenland se trouve face à un dilemme. D'un côté, il cherche plus d'indépendance grâce aux ressources naturelles. De l'autre, il y a cette crainte que les mines aient des conséquences environnementales qui affectent l'identité inuite.
Les Inuits, c'est l'écrasante majorité de la population. Pour toutes ces raisons, il y a seulement 2 mines en activité au Groenland pour le moment.
Merci Justine Fontaine, envoyée spéciale à Nuuk, la capitale du Groenland. C'était l'appel correspondant sur RFI. Et place à présent à l'invité culture. Il est l'héritier des peintres quinois des années 70. Jean-Pierre Mika expose en ce moment et jusqu'au 24 mai prochain à la galerie Magnin A à Paris, une série de peintures qui alerte notamment sur la nécessité de protéger l'environnement et la nature. Il est au micro d'Olivier Roger.
Jean-Pierre Mika, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous sommes devant un nouveau tableau, les chaussures crocodiles. Le sujet est évident, on voit un crocodile, on voit des hommes qui ont des chaussures en crocodile. C'est un hommage à quoi ?
On fait beaucoup de choses avec les peaux des crocodiles. On fait des sacs, on fait des chaussures, on fait des choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on fait ça avec modération.
Ce qui est étonnant aussi dans le tableau, c'est qu'il y a différentes inspirations. Là, on a l'impression d'être presque dans des peintures beaucoup plus naturalistes et moins, on va dire, surréalistes. Vous aimez bien mélanger les styles comme ça dans la même toile ?
Oui, moi j'aime bien qu'au moment que les gens qui sont devant mes toiles, tu vas voir qu'il y a toujours des choses que vous devez rester là. Si vous regardez mes toiles, tu peux regarder, ah, il y a petite chose, petit détail là, il faut que je dors là vraiment.
Mais c'est ça, on peut rester des heures à regarder les détails.
Ouais, les heures là pour regarder les détails. Donc moi, ça prend beaucoup de temps. Je peux faire 3 mois ou 4 mois dans une seule toile, quoi. C'est ça. Je fais des choses comme ça.
Quel est le but justement de mettre autant de détails en arrière-plan du tableau, en arrière-plan des 3 personnages et du crocodile? Le but c'est quoi? Vous l'avez dit, c'est attirer l'attention des gens, retenir l'attention des gens, mais ça a un sens aussi?
Oui, moi je fais ça aussi pour donner aussi la beauté. Il faut voir beaucoup de détails pour que ça soit vraiment, les gens soient vraiment captifs dans les tableaux, c'est ça. Beaucoup des artistes aussi commencent à faire les détails comme J.P. Mika. Dieu merci, il y a vraiment l'école J.P. Mika. C'est vraiment, je suis vraiment devenu comme référence, comme miroir. Beaucoup de gens regardent à travers mes œuvres.
Alors, il y a les détails, mais il n'y a pas que les détails. Parce que dans votre patte, dans votre style, J.P. Mika, il y a une finesse, je trouve, dans l'utilisation des couleurs, de la lumière. Ça s'apprend ou c'est inné?
Non, là je peux dire c'est inné, mais j'avais renforcé ça au moment que, puisque nous, dans notre génération, il y avait quelques artistes, on a passé dans le cinéma. Puisque chez nous, là-bas, il y avait des cinémas, on met des affiches de cinéma, et nous, on est là pour les suivre, ça. Des affiches pratiquement difficiles à faire. Tu vas trouver comme les affiches de Rambo 3, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails. Mais il faut que tu suives ça vraiment très bien comme un copie fidèle. C'est ça qui nous a renforcés pour faire bien les détails. Puisque ce que moi je fais, je disais ça tout le temps, que c'est l'inspiration divine. Quelque chose là, je ne peux pas imaginer ça, c'est spirituel, pas. Ça sort vraiment dans mes œuvres. Je voulais que tout le monde bénéficie de ça.
Vous parlez de spiritualité. La spiritualité joue un grand rôle dans votre travail ou pas?
Moi, je disais oui. Et beaucoup de gens voient que tu dessines bien, tu dessines bien. Mais moi, je disais à Dieu, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que les talents. J'aimerais aussi votre faveur. J'aimerais aussi votre grâce. Ça accompagne mes œuvres.
Donc avant de commencer, vous priez?
Oui, j'ai prié. Au moment que j'ai présenté cette exposition, moi et ma famille, on a fait 21 jours de prière pour invoquer la présence de Dieu, pour invoquer la réussite de notre exposition.
Merci beaucoup.
Merci.
Jean-Pierre Mika à la galerie Magnin-A à Paris. Entretien signé Olivier Roger.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Le Conseil Santé et ce matin Caroline Paré qui nous parle de paludisme chez les enfants.
Professeur Aliou Tiongan, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes pédiatre urgentiste, infectiologue et coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal. Comment protéger son bébé ou son petit enfant du paludisme quand on réside en zone endémique?
Alors, il y a plusieurs méthodes de prévention du paludisme. Il y a ce qu'on appelle la prévention médicamenteuse, où on utilise des médicaments durant la saison de forte transmission. On appelle ça la chimioprévention du paludisme saisonnier. Et puis, il y a la vaccination également qui est actuellement disponible. Et il y a la prévention non médicamenteuse qui utilise les moustiquaires imprégnés d'insecticides et la lutte antilarvaire. En gros, donc, ce sont les deux principaux moyens de prévention du paludisme chez les petits-enfants.
Et quels sont les symptômes chez le tout-petit qui doivent impérativement conduire à consulter?
Alors, les symptômes ne sont pas spécifiques chez les tout-petits. Donc, c'est des signes comme la fièvre, avec une augmentation de la température corporelle qui dépasse 38,5. On peut avoir des douleurs abdominales. On peut avoir également une diarrhée ou bien des vomissements ou parfois même des difficultés à s'alimenter, une anorexie et ou bien une asthénie ou une fatigue généralisée. Et chez les plus grands, c'est surtout un syndrome grippal avec des douleurs musculaires, des maux de tête. On peut avoir également une envie de vomir, quoi, qu'on appelle les nausées, ou carrément des vomissements.
Et dans ces cas-là, on file au centre de santé pour faire un test rapide, une goutte épaisse. Merci beaucoup, professeur Aliou Tiongan. Priorité santé, c'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel. À toute heure, en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et à tout à l'heure, c'était le Conseil Santé sur RFI avec Caroline Paré. Vous restez avec nous. Dans une poignée de minutes, ce sera le journal avec Alban Leprince. Mais avant, un peu de musique dans la playlist de nos programmateurs. Lauriane Zachary, Yélélélé.
Joute à la tennis, bel soleil. Ça qui fait entre nous, c'est magique. Sois sauté qu'à s'y mettre au ciel. Aux mélodies pour mon romantique. Et puis des yeux, tiens, mais moi. Bagaille là, c'est grand rôle, loi physique. Les larmes ont caressé en moi. Et sous son jet, musique là, nous chanter. Yélélélélé. Bon Dieu doit te mettre en main. Tout ça mettait nous plus haut. L'aile à l'île en cas monté. Nous toujours qu'on débat ta vie. Mais pas si spontan nous qu'a dit.
C'est vous, moi.
En nous chanter. Yélélélélé.
Yeah. Lauriane Zachary, Yelelelela, et à retrouver dans la playlist des programmateurs d'RFI, musique.rfi.fr. Vous restez avec nous, une minute de pause et puis ce sera le journal sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau hip-hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI. Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.